Voilà, nous commençons Daf Nun et Amud Alef, c'est tout en haut de la page à la Mishnah. Hanoder minadagan. Asur be Paul Amitri Yavesh. Divrei Rabbi Meir. On a déjà vu Paul Amitri, c'est une sorte de fève exceptionnelle parce que plus petite et qu'il y a deux façons de la manger. Ou on peut la manger en légumes, yerek, c'est-à-dire si on le mange frais. Je crois qu'on mange à ce moment-là même la cosse dans lesquelles il y a les grains, ou bien si on le laisse sécher, ça se fait en... ça se mange comme des légumineuses. Et dans ce cas-là, on en ferait même un kéri, c'est-à-dire on le stocke, on l'amasse, et on en fait un grand tas, comme on fait avec de la récolte de céréales. Alors, dans la Mishnah précédente, on réfléchissait, est-ce que c'est inclus dans Yerek ? Et on disait que le Paul Amitri, tant qu'il est là, il est inclus dans Yerek. Mais s'il est sec, il n'est pas inclus dans Yerek. Et maintenant, on nous dit que s'il est sec, il est du coup inclus dans Dagan. Dagan, c'est une autre définition. Dagan, on pourrait traduire à peu près céréales, mais ce n'est pas la traduction exacte. En Lashon HaKodesh, Dagan, c'est quelque chose avec lequel on fait un digoun. Digoun, c'est goren, c'est keri, un tas. On amasse la production et on la laisse au repos. Peut-être c'est pour sécher au soleil, je crois. Et ça, ça s'appelle goren. Quelque chose qu'on fait un goren de lui s'appelle dagan. Normalement, c'est les cinq céréales, mais Rabbi Meir y pense, ça ne s'arrête pas là. Ça peut inclure aussi les pol amitzri, une fois qu'ils sont yavesh. On en fait un tas. Et bien alors, lui aussi s'appelle dagan. Et donc, ça n'échappe pas au neder, il est assur bepol amitzri, divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim eno assur elabechameshet aminim. Celui qui a dit je m'interdis dagan, il s'est interdit que les cinq sortes de céréales, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. C'est les seuls qui s'appellent dagan, communément. Même si on ferait un digoun goren avec le pol amitzri, sur ça on n'en revient pas, c'est une réalité. Mais ce n'est pas lui qu'on appelle Dagan. Pour Haramim, Dagan, c'est spécifique aux cinq sortes de céréales. Point. Rabbi Meir Omer. Hanoder mina tevoa ino asur ela mechameshet aminin. Si quelqu'un il a fait un éder cette fois-ci de tevoa. Tevoa, on entend en général production au sens large. Mais plus spécifiquement, c'est la production des céréales. Ino asur ela mechameshet aminin, il n'est interdit que des cinq sortes de céréales. Celle qu'on vient de citer, rien de plus. C'est comme si Rabbi Meir va dire, même si je suis en désaccord concernant Dagan, je pense que Dagan est plus large que juste les cinq céréales, mais tes voix, je suis d'accord que c'est que les cinq céréales. Avala nodermina Dagan, il réitère Rabbi Meir, nodermina Dagan, il assure bakol, il interdit dans tout ce qui se fait Dagan, tout ce qui se fait Goren, tout ce avec quoi on fait un tas, tel que Paul Amitri, il l'a dit plus haut, il le dit ici de manière générale. Donc pour Rabbi Meir, Dagan ne s'arrête pas à cinq sortes de céréales. Mettez-vous à y reconnaître qu'effectivement, c'est que les cinq sortes de céréales. Umutar beperot aylan ou bayerek. S'il a dit je m'interdis, Dagan, ça n'inclut pas les perot aylan et le yerek. Eux ne s'appellent pas Dagan parce qu'on ne fait pas de goren avec les productions de fruits d'arbres ou de légumes. On n'en fait pas avec un goren. Ça se mange frais. Maintenant, je me suis demandé, d'après les Chachamim, le Paul Amitri, on a vu que plus haut dans la Mishnah précédente, quand il est Yavesh, on disait que il ne fait pas partie de Yerek. La partie de Yerek. Quand il est là, il fait partie de Yerek. Mais quand il est Yavesh, il ne fait pas partie de Yerek. Et maintenant, d'après Rabbi Merdi, alors il fait partie de quoi? Il fait partie de Dagan. Mais si d'après Rabbi, il ne fait pas partie de Dagan, alors il fait ni partie de Yerek, ni de Dagan. C'est pas Yerek parce que c'est Yavesh. Ça se mange pas frais comme le Irakot. C'est pas Dagan parce que Dagan est restrictif, on n'entend que les cinq céréales. Alors, Qu'est-ce que ça peut être? Je ne suis pas sûr, mais certainement, c'est un autre Shem. Ça s'appellera Kitniyot, comme les légumineuses, certainement. Gemara, le Mimra de Dagan, Kol de Midgan, Mashma. Ce que nous dit ici Rabbi Meir dans la Mishnah, ça s'entend que tout ce qui est sujet à digoun, c'est-à-dire qu'on en fait un goren, un tas qu'on amasse et qu'on laisse comme ça dans un espace, un champ, avant de le rapatrier, de le conditionner. Eh bien, c'est ça qu'on appelle dagan. Donc, pas uniquement les cinq sortes de céréales, même d'autres productions telles que ce pola mitzri avesh. C'est ce que je vois chez Rabbi Meir. Mais Rav Yosef. Rav Yosef objecte. Un pasouk nous raconte que, c'est dans Divrei Hayamim, il y a eu un moment où on n'était pas très scrupuleux dans le prélèvement des troumot et minsrot. C'est alors que Rizkia a pris des mesures d'imposer que soient amenés au Bet Amigdash les prélèvements. Et là, la suite du récit, Vekifrot Sadavar, et quand la chose s'est renforcée, on a massivement suivi le mouvement, et donc les gens ont amené massivement, etc. Hirbu ben Israël reshit dagan tirosh veitzar vekol tevuat sadeh la rov. Les Israélites ont multiplié les prélèvements, ils ont amené beaucoup de prélèvements, reshit sadeh la teruma de dagan et de tirosh et de yitzar. Dagan, on va traduire, tirosh l'huile, non le vin, et yitzar l'huile d'olive. Les denrées qui sont rayables des prélèvements minatora. La robe. Mais également, le prélèvement de toutes sortes de productions des champs en nombre. Et donc, Iamrat Dagan Kol de Midgan Mashma. Si tu dis comme Rabbi Meir que Dagan, déjà, c'est large, c'est pas uniquement les cinq céréales. Donc, c'est déjà évoqué qu'ils en ont rajouté sur le Chiyuv de base. Parce que le Chiyuv de base Minatora pour les prélèvements, c'est uniquement les cinq céréales, l'huile d'olive. Et le vin. Et là, tu dis que quoi? Que kol tevuat sadeh, ça rajoute encore d'autres sortes de production. Alors, ça inclut peut-être le pola mitzri, ça inclut ce genre de choses. Ok. C'est ça, les productions des champs, ça voudrait dire même d'autres choses avec lesquelles on fait un goren, comme les céréales, eh ben, on s'est dévoué pour en faire un prélèvement et l'amener au Bet Amigdash. Même si Minatora, ce n'était pas requis, c'est ce que le pasouk veut nous signifier en rajoutant Vechol Tevuat Sadeh, la rove en nombre. Mais si je dis que Dagan, c'est déjà plus large que les cinq céréales, donc ça inclut même les autres productions avec lesquelles on fait un goren. Alors, Maïkifrot Sadeh, Maïkifrot Sadavar Irbu, qu'est-ce que signifie ce pasouk quand ils ont... Quand ils se sont renforcés dans le prélèvement des masrot, ils en ont rajouté davantage. En amenant même Tvoat Sadeh. Mais tu me l'as déjà dit dans Dagan, puisque Dagan est large. Ce n'est pas uniquement les cinq céréales. Amar Abaye, l'étouillé Perot Aylan Vayerek. Ça vient inclure plus que ça. Le Chol, tu as raison. Dagan, ça s'entend déjà cinq céréales plus. Plus, par exemple, la Mitzri Yavesh. Ou tout ce qui est sujet à Goren. Maintenant, Vechol Tevuat Sadeh, ça inclut encore davantage. Quoi davantage? Eh bien, le maaser des fruits d'arbres ou des légumes, qui lui est maaser des Rabbanan, déjà à cette époque, se sont dévoués pour amener ce maaser. Donc, il y a la place pour un surplus. Même si Dagan recèle en lui tout ce qui est sujet à Goren, le pasuk de Kol Tevuat Sadeh inclut encore davantage que même Perot Aylan Veyerek, ils se sont sentis le devoir d'amener, ils ont amené les masrot. Point. D'après Chachamim, on n'a pas besoin de ce complément. On dira que c'est quoi Kol Tevuat Sadeh? C'est pour inclure littéralement les Tevuat Sadeh, ça veut dire les productions des champs qui ne sont pas les cinq céréales. Oui, ce sont astreints à amener les masrot des polamitri ou de toutes sortes qui seraient sujets à Goren, qui n'est pas inclus dans Goren tel quel, mais qui est inclus par le pasuk Vechol Tevuat Sadeh. Maintenant, dans ce passage, il y a un problème. C'est qu'on se réfère à un pasuk pour s'attaquer à Rabbi Meir de la Mishnah. Mais Rabbi Meir dans la Mishnah, lui, nous parle en référence à la Shon Ben Adam, puisqu'on est dans Nedarim. Et dans Nedarim, on est d'accord qu'on suit la Shon Bene Adam. Et Rabbi Meir nous dit que je pense que quand quelqu'un il parle de Dagan, Ça inclut tout ce qui est sujet à Goren. Donc, y compris pour la mitzri Yavesh. Et alors que dans le pasouk, tu vois le contraire. Le pasouk, c'est Lachon Torah. Moi, je parle de Lachon Bene Adam. Où est la contradiction? Et alors, à ce problème, je vois dans le Rosh une solution. Il semble dire que le pasouk parle Belachon Bene Adam. Après, il faut comprendre pourquoi ce pasouk nécessairement est une référence pour Lachon Bene Adam. Peut-être que le pasouk qui nous fait ici un récit de ce que les gens ont mis en œuvre, et donc eux, se sont organisés entre eux pour faire ceci et cela, tel prélèvement et tel prélèvement qu'ils ont acheminé, etc. Alors comme c'est leur organisation qui est relatée dans le pasouk, certainement le pasouk parle dans le lachon de ces béné Adam, tels qu'eux se sont organisés, et donc ce qui est relaté dans le pasouk, c'est avec les termes de lachon béné Adam. C'est ce que j'essaye de comprendre. Mais en tout cas, le Rosh nous dit qu'ici, le Pasouk, on a reconnu qu'il nous parle « Belachon Bene Adam », c'est pourquoi c'est une référence et une objection contre Rabbi Meir. Ce à quoi Abaye a répondu « Leitouye perot aylan veyerek ». Très bien. Maintenant, la Mishnah, elle continue « Rabbi Meir omer anoder mina tevoua vechoulei ». Amar Rabbi Yochanan, « Akol modim benoder mina tevoua, shenasur ela bemechameshet aminim ». Ça, tout le monde est d'accord. Ce que Rabbi Meir vient de dire, bien que c'est dit dans la Mishnah au nom de Rabbi Meir, qui est Yahid, ne crois pas que les Chachamim sont opposés. Ils sont parfaitement d'accord. Sur ça, il y a consensus que Tvoua égale Chameshet Aminim, rien de plus. Tanya Nami Rachi, on l'a trouvé dans une Braïta, exactement la même chose. Veshavin Benoder Mina Tvoua, Shen Asur Elame Chameshet Aminim. Ils sont d'accord, qui? Chachamim et Rabbi Meir qui ont discuté dans Dagan. Pour ce qui est de tes voix, ils sont parfaitement d'accord que ça ne comprend que les cinq sortes de céréales. Point. Donc voilà un Rabbi Yochanan, voilà une Braïta qui nous précise ce que nous, peut-être on n'aurait pas su, de Mon Agmara, mais c'est Pshita, c'est évident. Pourquoi il devait intervenir Braïta ou Rabbi Yochanan? Mais c'est évident que tes voix, ça ne comprend que les cinq céréales et d'après tout le monde. Parce que ça ne peut pas être autrement, dit l'Agmara, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Tevoa kolmine machma, que la tevoa, ça s'entend n'importe quelle production agricole, pas nécessairement les cinq céréales. Parce que au niveau étymologique du terme, tevoa, ça veut dire, me semble, production. Et donc, ce serait pas restrictif uniquement aux cinq sortes de céréales. Kamashmalan de lo machma kolmine. Nous fait entendre la Braïta ou Rabbi Yochanan Achidouche que les Rabbanan, ça ne s'entend pas Kol Davar. Non, c'est que les cinq céréales. Ça veut dire, la Mishnah telle qu'elle est présentée, ça pouvait tromper. Puisque c'est Rabbi Meir qui souligne tes voix, c'est cinq céréales. Rien de plus. Rachamim n'en ont pas parlé, peut-être c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Peut-être que eux, ils pensent, nous dit le Roche, ça donnerait que Rabbi Meir et Rachamim sont diamétralement opposés. Concernant Dagan et Tevoa, ces deux définitions. Alors que pour Rabbi Meir, Dagan est large, ça inclut plus que 5 céréales. Et Tevoa est restrictif, c'est que les 5 céréales. Pour Rachamim, ce serait le contraire. Dagan, c'est restrictif, c'est les 5 céréales. Et Tevoa, hein, ce serait plus large, ça inclurait même d'autres productions. C'est ce que j'aurais pu croire. Eh bien, vient la Braïta et Rabbi Yochanan nous dire non. Que Tevoa, même Rabbanan, sont d'accord que c'est les 5 céréales. Si bien que d'après Rabbanan, que ce soit Dagan ou Tevoa, c'est les 5 et rien d'autre. Maintenant, pourquoi c'est pas Pshita? Parce que le mot Tevoa peut-être s'entendrait plus que uniquement les 5 céréales. Alors, Laura nous dit pourquoi on aurait pu croire. Parce que le targum du mot Tevoa, c'est Alalta. Alalta ou Alalta, c'est un mot d'araméen qui signifie accroissement, quelque chose qui se développe, ou qui prospère, qui apporte un bénéfice, un enrichissement. C'est ça, l'Alta. C'est certainement le cas des productions. Mais à ce titre, on aurait dit n'importe quelle production, pas nécessairement céréales. Parce que dans le terme araméen de Tevoa, Tevoa, c'est l'hébreu, mais dans le terme correspondant de l'araméen, ça s'entend plus large. Donc j'aurais dit que même tes voix en hébreu, ça s'entend plus large. Parce que peut-être que dans la tête des gens, c'est ce que je crois comprendre, Les gens s'en seraient référés à la résonance du mot tevouah selon ce qu'ils connaissent son targoum. Ils connaissent le targoum araméen, c'était le langage parlé souvent. Et donc, le langage araméen influence l'hébreu dans la tête des gens. Que ça résonne comment, la tevouah ? Ben, pas que les cinq céréales. Tout ce qui est accroissement, tout ce qui est source d'enrichissement, etc. Peut-être ? Kamash malan que non. C'est ça que le Tana nous fait entendre dans la Braïta ou Rabbi Yochanan, que selon Chachamim, comme pour Rabbi Meir, tevouah, en hébreu, ça s'entend, cinq céréales et rien de plus. Voilà. Metiv Rav Yosef. Rav Yosef objecte, ve kifrot adavar irbu bene Israël vechoule. C'est le passage qu'on a cité plus haut. Quand la campagne des prélèvements, eh bien, elle battait son plein, entre guillemets. Et il y a eu un élan. Et ils se sont mis à porter massivement, etc. Il y a eu un chizouk dans tout ce qui est prélèvement. Alors, le passage nous raconte comment ils ont prélevé davantage et plus que ce qui était obligatoire. Et on a vu dans le passage, « Verol tvoa tzadé », etc. Et qu'est-ce que ça inclut, « Verol tvoa tzadé » On a dit plus haut, « Verol tvoa tzadé », ça inclut « Perot Aïlan » ou bien « Les Yerakot », selon Rabbi Meir. Et selon Rachamim, ça inclut, ben, ça inclut au moins ce qui est sujet à Goren, tel que les « Pola Mitriyavesh ». Mais alors, dans ce cas-là, Dagan n'est pas restrictif. Pardon, pas Dagan. Tevouah n'est pas restrictif aux cinq sortes. Puisque c'est ce terme qui est venu rajouter sur Dagan. Si Dagan, c'est les cinq sortes, et Vechol Tevouah Tzadeh est venu nécessairement en rajouter. Ils ont amené même le maaser d'autres productions agricoles telles que Tevouah Tzadeh. Forcément, c'est autre chose que les cinq céréales qui sont déjà précitées dans le pasouk. Donc tu vois bien que Tevouah désigne pas que les cinq céréales. Objection de Rav Yosef. Marava, tu vois les choud, tu vois tzadé les choud. Tu vois à part et tu vois tzadé à part. Le pasouk, ça parle de tu vois tzadé, tu as raison. Ça s'entend les productions du champ. Et donc n'importe, ça inclut même d'autres que les cinq céréales. Mais tu vois tout court, c'est dédié aux cinq céréales et uniquement. Point. Donc on maintient ce que Rabbi Meir et Rachamim se sont accordés que tevouah, ces cinq céréales, c'est maintenu, il n'y a plus d'objection. Une histoire. Bar Marshmuel Pakid, le fils de Marshmuel, il a fait un testament. Pakid, ça veut dire il a été metsavé, mechamat mita, en tant que shriv mera, il fait un leg, et il a ordonné dans son leg, delit nun tlesar alfezuzé, que soit donné 13 000 Zouz, la valeur de 13 000 zouz à Rava, min al-alata de Nehar Panya, en provenance de son al-alta qui se trouve à Nehar Panya. Il y avait un endroit à Nehar Panya où il avait là-bas ses biens, dont ce qu'il désigne comme al-alta, et il disait donc que de ce al-alta, on fournit sa Rava à hauteur de 13 000 zouz. Un beau leg pour Rava, qui était, je ne sais pas, le Rosh Hashiva ou peu importe, c'était un grand Chacham, voulait lui faire un leg. Alors maintenant, Shalcha Rava le Kamed Rav Yosef. Rava, il a questionné, il a envoyé la Sheila auprès de Rav Yosef. Al-Alta et Chemekaria. Comment ça s'entend, Al-Alta? Ça veut dire, il voulait savoir maintenant de quel genre de bien il peut encaisser à hauteur de 13 000 dinars. Parce que ça avait été dit dans le leg qu'on lui cédait à partir de quel bien les al-alta. Donc si al-alta, ça comprend certaines choses et pas d'autres, et bien c'est que de ces certaines choses-là qu'il pourra réclamer des héritiers à hauteur de 13 000 dinars. Donc c'est pourquoi il a fait la shéla à Rav Yosef. Il lui a adressé la Shela par un chaliar, c'est ça, Shalcha Rava le Kamed Rav Yosef, Al-Alta Echemikaria, Amar Rav Yosef. Rav Yosef a répondu, Matnitini, mais c'est une Mishnah. C'est dans notre Mishnah que tu trouves la réponse. Veshavin Benoder, Minatvoa, Shen Asur, et la Mechameshet Aminin. On a bien vu, ou plutôt, quand il a dit matnitin, ou ce serait pas notre mishta mamash, ou plutôt matnita. Voilà, ils ont corrigé matnita. C'est une braïta. La braïta a bien dit qu'ils sont d'accord, Rachamim, avec Rabbi Meir, que non dermina tevoa et nasure la chamechet aminin. Et donc, alalta qui est la raméen de tevoa, c'est que les 5 sortes de céréales. Donc, si le fils de Marshmuel, il avait légué, il avait laissé à Néarpania des stocks de céréales, Rava, il a dû encaisser ses 13 dinars. Mais sinon, s'il a laissé d'autres nechassim ou d'autres productions qui ne sont pas les 5 céréales, eh bien, c'est perdu. Rava n'a rien à obtenir. Amar le Abaye Midami, Abaye, il dit à son maître, Rav Yosef, est-ce que ça ressemble? Tevou, ah! Lo mashma et la mecha meshet aminin, alalta kol mile mashma. Tevoua, l'hébreu, ça s'entend que les 5 minines, c'est une chose. Alalta, l'araméen, c'est la traduction de tevoua, mais en araméen, là, c'est beaucoup plus large. Kol mile mashma, ça s'entend toute chose. Alalta, ça s'entend, disent les rishonim. Quelque chose qui est bon et qui est meshoubar, qui est top. Ça, c'est une traduction. Le Ran, il pousse un peu plus, il dit quelque chose qui est prospère, qui amène un enrichissement, un accroissement, il y a un développement dans cette chose. Alors, on va le ressentir comme ça d'ailleurs dans la Gemara plus bas. Donc, quand je dis alalta, qui est le terme en araméen qui correspond à tevoua? Mais il y a dans ce terme de alalta, peut-être c'est milachon élévation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a la résonance de accroissement. Pas juste céréales, 5 sortes. Et donc, Abaye il dit à son maître, à Yosef, le fils de Marshmuel, quand il a fait son leg, il a dit en araméen, il a dit à l'alta, il n'a pas dit tes voix. Donc pourquoi tu dis ça s'arrête aux 5 sortes? Non, ça inclut toutes sortes de choses que le défunt aurait léguées, qui sont quoi? Qui sont dignes d'accroissement, d'enrichissement. Donc, à Aderou, les Kamei des Rava, on a rapporté cette réponse, cette conclusion à Rava. La conclusion de Abaye, devant son maître, certainement Rav Yosef, il a acquiescé. Et donc maintenant, la réponse a été retransmise à Rava. Amar, il a dit à Lokami Bayali, mais ça, j'avais pas de doute. Ça, je savais bien. Dalalta, Kolmile, Mashma. C'était pas ma question. Hada ou Dei Bayali. Voilà ce que j'avais comme doute. Est-ce que Srar Batim et Srar Sfinot, Maï? Dans Alalta, on comprend toute chose qui permet un accroissement, un enrichissement. C'est ça qu'on appelle Alalta. Des biens qui permettent l'enrichissement. Est-ce que c'est le cas pour des maisons ou des bateaux? Imaginons que le défunt, il possédait des immobiliers ou bien des bateaux, une flotte parce qu'il était riche. Et est-ce que moi, Rava, je peux réclamer aux héritiers mes 13 000 dans ceci ou cela, en immobilier ou en bateau? Maï. Et quelle est la question? Mais si Alalta signifie en araméen, effectivement, et tu le savais toi-même, Rava, que ça inclut toute chose qui est digne d'accroissement, alors pourquoi tu demandes? Mi amrinan ki van de pachatan aval altai? Est-ce qu'on va dire que puisque ça se dégrade avec le temps, un immobilier, si tu n'entretiens pas, il se dégrade. Un bateau aussi, il y a de l'usure, etc. Alors, c'est pas alalta, c'est pas inclus dans le terme alalta. Odilma qui va de l'yadia parhatayu, ou peut-être parce que la dégradation n'est pas tellement perceptible, c'est sur la durée. Mais tu vois pas ça comme ça direct que. Et en plus, certains disent que ça apporte une rémunération, rien que le fait de le louer. Et donc, alaltai, ça s'appellerait bien alalta. Point. Ça, c'était ma chéla. C'est pourquoi j'ai fait demander à Rav Yosef. Donc Rava, il a dit, la réponse qu'on m'a rapportée, je la connaissais. Ce que j'avais besoin, c'était d'affiner un peu plus le sujet. Même si Alalta en araméen, ça comprend toutes sortes de choses qui peuvent être source d'enrichissement, d'accroissement, etc. Mais est-ce que c'est le cas des maisons? Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? Des maisons, des bateaux, oui ou non? C'est ça que je voulais savoir. Et à ça, Rav Yosef n'a pas répondu. Très bien. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre que ce sujet est lié à notre Tougia. C'est la Shon Ben Adam qui compte. Quelqu'un, il fait un leg. Et il a dit donner à un tel de mon alalta. à hauteur de 13 000 dinars. Mazé alalta, c'est à nous de définir. Comment va se, à quoi on va se référer pour définir? Ben, au lachon ben adam. Parce que c'est ça qu'il a entendu. Tout comme dans Nedarim, tu dis c'est lachon ben adam qui compte. Là aussi, c'est lachon ben adam. Et c'est pourquoi on est en parallèle dans les deux sujets. Et c'est pourquoi la Gemara a ramené cette référence qui est un sujet différent, mais qui est dit directement lié. Parce que c'est toujours lachon ben adam qui est déterminant. Alors la suite de l'histoire, c'est que finalement, Rava n'a pas eu recours au savoir de Rav Yosef. D'accord ? Il a dit, mais ça, je savais. Ma question, c'était un autre niveau, encore plus fin. Amarua Rabbanan Kamed et Rav Yosef. Les Talmidim ont rapporté auprès de Rav Yosef que voilà, Rava, il a réagi comme ceci. Et voilà, sa question, elle était un peu plus fine. Pardon ? Amar, Rav Yosef a dit, mais alors s'il n'a pas besoin de mes services, Amay Shalachlan, pourquoi il nous a envoyé la Shela? Ikpad, Rav Yosef. Rav Yosef était makpid sur son Talmid Rava. Il a une Ikpeda, c'est pas une manière. Tu me demandes, c'est que tu as besoin de mon savoir. Si tu n'as pas besoin de mon savoir, pourquoi tu as demandé? Ou pourquoi tu as demandé la question comme si la part qui t'a l'air évidente, tu me la soumets? Non! Précise ta question, je vais m'attacher là de manière plus fine, que je comprenne où se situe ta Shéla. Où est ton incertitude? Ce qui t'a l'air évident, ce n'est pas une Shéla. Pourquoi tu l'inclus dans la Shéla? Donc, voilà, Rav Yosef, il avait une Kpeda contre son Talmud. Shama Rava, Rava, il a appris que Rav Yosef, il a été makpid sur lui. Atale kame bemale yomade kipurei. Alors, il n'a pas manqué l'occasion. À la veille de Yom Kippour, il est venu, s'est déplacé, donc c'est un voyage, pour aller comme être Mephayes, Rav Yosef, son maître. Alors, Rav Yom Kippour, c'est un jour où c'est une mitzvah de manger, de boire. Alors, il a trouvé, Rava a trouvé le shamash en train de préparer le dosage du vin pour Rav Yosef. C'est ça la mzigatakos. Amar le avli de amzigle. Rava, il a suggéré, tiens, je t'en supplie, laisse-moi faire la mziga. De amzigle ana. Ya avle. Il a laissé faire. Veka mzigi hu kasa de chamra. Et c'est Rava lui-même en personne qui faisait le service pour Rav Yosef. Pas devant lui, mais il lui préparait le dosage du vin que le shamash allait servir à Rav Yosef, le Rosh Yeshiva. Qui cachatait lorsqu'il buvait, Amar aden misga de mi, dami le misga de Rava, bere de Rav Yosef vachama. Tiens, ce dosage, cette façon de doser le vin, ça me rappelle la manière de Rava, le fils de Rav Yosef vachama. C'est celui qu'on appelle couramment Rava. Amar le uniu, le shamash, il dit à Rav Yosef, mais c'est lui-même. Il est là, donc certainement il a dû le faire entrer. Amarle, Rav Yosef, il dit à Rava. Certainement, Rav Yosef, il avait compris que si Rava fait une apparition et Rav Yom Kippour, c'est certainement pour se racheter, pour ce manquement qu'il a eu à l'égard de Rav Yosef, qui était autrefois son maître, etc. Donc, il lui dit, Lotiti Vakarir, tu t'assois pas sur tes pieds. À l'époque, on s'agenouille devant son maître, ça s'appelle s'asseoir sur ses pieds. Il lui dit, ne t'installe pas, en d'autres termes. Ade amratli pirouja de aden milta, jusqu'à que tu m'expliques le commentaire de ce passage. Maï dirtiv, que signifie ce pasuk ou mimidbar matana ou mimatana nachaliel ou minachaliel bamot? C'est un pasuk dans la Shira à propos des nissim de Nachal Arnon. Quand ils ont passé ce fleuve, les Bnei Israël en revenant de Mitzrayim, à la fin des 40 ans du désert, ils arrivent bientôt en Eretz Kenan et ils ont passé un fleuve dans lequel les Morim leur ont tendu un piège. Et moins 5, ils allaient y passer. Et grâce au Be'er chez Myriam, il y a eu des Nissim. Alors là-bas, on parle de ce fameux Be'er. Be'er Chafarua Sarim, c'est ce que le pasuk nous dit. Le puits a été creusé par des Sarim. Karua Nedive Aham. Qui était? C'était Moshe et Aaron. Etc. Ça veut dire qu'ils ont eu ce Be'er qui les accompagnait depuis le Midbar jusque Matana, de Matana jusque Nahalia, c'est descendu dans le Nahal, et du Nahal c'est remonté Bamot aux hauteurs. Ça veut dire que, voilà, il relate dans la Shira le bienfait d'Hachem avec ce Nes, le Be'er Shel Myriam. Oui, ça c'est le Pshat, mais il y a ici forcément des allusions et un drash très beau à relever. C'est ce que Rav Yosef invite Rava de développer parce que, comme il dit certains Mefarshim, il y a des indices qu'il y a forcément appel à interpréter. Appel à interprétation. Tu ne peux pas juste te contenter du pshat. Sinon, pourquoi il y a écrit Nahaliel ? Il fallait dire Nahal, le fleuve. Pourquoi il y a écrit Matana pour désigner le Be'er ? Le Be'er, c'est le puits. Tu le désignes Matana. Elle parle du Be'er plus ouvertement. Ok. Alors justement, il faut maintenant un drash. Et Rav Yosef, il invite Rava. Et avec la tournure de ce drash, on va comprendre que l'intention et l'arrière-pensée de Rav Yosef, c'est de faire rappeler à Rava une leçon d'humilité qu'il doit apprendre à être au maximum de l'humilité. Il l'était déjà, mais au maximum. Alors, parce que comme il y a eu un petit manquement à l'égard de son maître, il lui a rappelé cette leçon en le faisant commenter. Donc c'est très raffiné la manière. Il ne lui a pas dit frontalement, tu devrais revoir un peu ceci ou cela. Non, c'est... Donc voilà, maintenant c'est Rava qui commente. Alors qu'est-ce qu'il fait comme commentaire à Marley Kivan, Shose Adam et Atzmo Kamidbar, si un homme s'assimile au Midbar, Shou Moufkar Lakol, qui est Hefker, à la merci de tout le monde, Torah Nitna Lome Matana, la Torah lui est accordée de Matana. Ça veut dire bien sûr, il va s'efforcer pour comprendre et connaître, mais ce qui sera au-dessus de ses capacités, on va l'aider à saisir et à maîtriser. Comme en cadeau. On a vu que Moshe Rabbeinu Hashem lui a donné la Torah en cadeau à la fin des 40 jours, mais il avait fait tout ce qu'il pouvait. Alors ça existe qu'un homme, on lui fait cette faveur, qu'on l'aide à maîtriser ce qui dépasse ses capacités. Mais pour ça, il y a une condition. Il faut qu'il soit Efker Lakol Kamidbar. Alors, ça peut se traduire par humilité ou anav par excellence, comme le Midbar qui est piétiné de tout le monde. Mais ce n'est pas ce que les Rishonim nous font ressortir ici. Ailleurs, on parle du Midbar comme un symbole de quelque chose qui est piétiné par tout le monde. Mais là, les Rishonim nous disent que c'est quelque chose qui est Hefker. Ça veut dire que tes connaissances de Torah, tu ne te les gardes pas. Tu les partages à tout le monde, tout celui qui vient te demander, tu lui enseignes, etc. Celui qui est dans cette démarche, alors la Torah lui est donnée cadeau. Shenemar Midbar Matana, parce que dans le passage c'est écrit Midbar Matana. D'où elle vient la Matana de la Torah à un homme qui veut s'instruire? C'est par Midbar, le fait qu'il est Efker. Midbar c'est un symbole, le symbole de Efker. Vekiman Shenit Nalo Matana, Nachalo El. Et alors de Matana, Nachali El, c'est le passage que veut dire Nachali El, que Nachalo Kel, Hashem, on fait de lui son chélek, c'est son cher. Je n'ai marre, mais maintenant, nachaliel. Et qui va de chenachalo el, alors du fait, et dès qu'il arrive à ce stade, olé l'ikdoula. Il monte l'ikdoula, ça veut dire certainement, il est désigné quelque chose de très chachouf dans l'âme Israël. Je n'ai marre, mais nachaliel, bamot. Bamot, ce sont les hauteurs. Des migbiatsmo, si lui-même, une fois qu'il arrive à ce stade, il s'oublie et il se sent fier de ça. Il a de ça une fierté personnelle. Akadosh Baruch Hu Mashpilo, Shem le Rabbes, Shenemar Mibamot Agai, des hauteurs vers Agai, c'est la dépression, et en dépression, la vallée. Velod Elash, Shok Inoto, Bekarka, et pas seulement ça, on le scelle dans le sol, Shenemar, Venishkafal Pnei Shimon, Venishkafal Pnei Shimon, c'est la fin du Pasuk, ça résonne comme Iskoupa. Iskoupa, c'est le seuil de la porte qui est scellé au sol. Beimur. Mais si cet homme il fait tchouva pour avoir eu un sentiment de fierté, Akadosh Baruch Hu Makbio, Hashem de nouveau il l'élève, Shenemar, Kolge Yinase. Et ça c'est un pasouk dans le Navi qui n'est pas du tout rattaché à ce qu'on a vu, mais que la Gemara entend relier que Hashem il réélève celui qui est rabaissé à Gay. Et Gay c'est quelque chose comme on a dit, Hagai, c'est là ce qui est en dépression. Que Hacham a ramené un homme plus bas, et bien dans un autre passage, on te dit qu'il peut aussi le réélever, le rehausser à nouveau. s'il a fait tchouva. Point. Et donc ça c'est le drouche que Rav Yosef invitait à Rava de commenter. Rava a su le commenter, mais c'était par allusion un petit ochecha de son maître, que voilà, faut revoir la perfection de l'humilité qu'il aurait dû avoir. Point. Tania, dans une braïta, ça enseigne à Nodamina Daganasur, Avtepol Amitsri Yavesh. Ça, ça résonne comme Rabbi Meir de notre Mishnah. Chachamim ne sont pas d'accord, on l'a bien dit, que pour eux, Dagan, c'est que les cinq sortes de céréales. Donc pour Rabbi Meir, ça comprend Pol Amitsri Yavesh parce qu'on en fait un keri. Ou Moutar Belach. Mais le Pol Amitsri qui est frais, qui se mange en Yerek, c'est Moutar, ça échappe au Neder. Puisque tu as dit Dagan, et ça c'est pas Dagan, on n'en fait pas un Goren, ça se mange frais, très bien. Et également, il est Moutar Be'orez, Be'chilka, Be'targis ou Be'tisani. Orez, c'est, je crois, le riz, certains diront le riz, certains diront le millet, voilà. Chilka, Targis et Tisani, c'est du blé concassé dans des calibres différents, très bien. L'un c'est le grain concassé en deux, l'autre c'est en trois et l'autre c'est en quatre. Comme ça, l'agmara établit ailleurs. Maintenant, pourquoi ceux-là ne sont pas inclus dans Dagan? Mais Dagan, c'est le céréal. Alors le reste, tu me dis non. Mais pour Rabbi Meir, ce n'est pas que le céréal, les cinq céréales. C'est tout ce qu'on en fait un goren. Ça voudrait dire qu'avec du orez, on ne fait pas un goren. Ni avec du blé concassé. Eh bien, c'est ce que je vois aussi dans certains mefarshim, que ce sont des choses où on ne fait pas de goren. C'est pourquoi Rabbi Meir ne l'a pas inclus dans Dagan. Même d'après Rabbi Meir, ce n'est pas inclus dans ce neder. A fortiori, d'après Rachamim. Maintenant, sur le plan technique, pourquoi on n'en fait pas un goren? Il me semble que le blé, pour en faire un goren, c'est parce que tu le stockes une fois que tu l'entreposes dans le champ, sur l'aire de battage, une fois qu'on a battu et vanné le blé, tu le laisses là-bas pour dorer au soleil. Avant de le stocker dans le silo. Sinon, il va pourrir s'il est trop humide. Maintenant, ça se fait avec du céréal en grain. Une fois que tu l'as concassé, certainement il avait déjà séché pour pouvoir le concasser, de un. Et de deux, une fois qu'il est concassé, tu ne le laisses pas dormir là-bas. C'est un produit fini qu'on doit conditionner. Et donc, on n'en fait pas un goren. Et donc, c'est pourquoi il ne s'appelle pas Dagan. Ce n'est pas inclus dans le... Bien que c'est du blé, c'est les cinq minimes. Mais quand tu dis Dagan, c'est du grain. Ce qu'on fait un goren, c'est pas seulement une espèce particulière qui s'appelle les céréales, c'est en plus un état particulier, c'est en grain, et pas concassé, c'est ce qu'on voit. Et le riz, canéré, on ne fait pas de dagan non plus, on ne fait pas de goren. Pourquoi on n'en fait pas? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas, peut-être qu'on n'a pas besoin de le sécher au soleil, je ne sais pas. Mais ils ne font pas de goren, donc ce n'est pas inclus dans dagan. Hanoder min perot hashana. C'est toujours la même braïta qui continue. Si quelqu'un dit « Je m'interdis de profiter des fruits de l'année », il a sourbe kol perot hashana, donc que ce soit les perot à ilan, les fruits d'arbre, priyaetz, priyadama, tout s'appelle perot, tout est inclus, mais que la production de cette année en cours. Ou mutar bigdayim, mais il aura le droit de manger des productions qui sont d'ordre non pas agricole mais élevage. Chevreau, il vient de naître un chevreau, tlaim, un mouton, un agneau, pardon. Chalav, le lait, betim, des œufs, gozalot, des volailles, tout ce qui est production d'élevage, ça, il pourra consommer. Ce n'est pas inclus dans perot. Ça ne s'entend pas dans le mot perot. Veimamar, gidoul et shana, mais s'il a dit, il est gidoulim de l'année, c'est à l'ail, je m'interdis, c'est à sourbekoulam. Tout est inclus, même ce qui est élevage. Parce que gidoulim, ça veut dire, je ne sais pas quel est le mot qu'on pourrait dire en français, tout ce qui est...
qui va émerger.
Production de l'année, je sais pas. Production, je sais pas. Je sais pas. Il y a un terme qui doit inclure les deux, que je connais pas en français, mais en tout cas, Gidoulim, ça veut dire les productions au sens large. Donc ça comprend les productions agricoles et aussi d'élevage. Point. Hanoder mina perot, c'est encore la braïta qui continue. Il a dit perot haaretz. Il a sourbe kol perot haaretz. Les navets, les courgettes et tout ça, ça s'appelle perot haaretz. Ou moutard, becmine ou pétriote, néanmoins, il peut manger les champignons. Veimamar guidoule karka, l'ail. Mais s'il a dit, je m'interdis guidoule karka, assour bekoulam, là, il assour même les champignons. Alors, les champignons ne s'appellent pas perota aretz, mais s'appellent guidoule karka. C'est ce qui est défini ici. Et on va se pencher sur ça, justement, urmini. La Gemara dit, mais il y a une référence qui semble contradictoire. Une Mishnah dans Maseret Brachot nous dit, Al-Davar Shen Gidulo Mina Aretz, sur ce qui n'est pas produit de la terre, Omer She'akol Niya Bidvaru. Avant de manger, la bracha sera She'akol Niya Bidvaru. Vetania est dans la Braïta, on commente, on nous donne une liste. Qu'est-ce qui n'est pas Gidulé Aretz et qui mérite la bracha de She'akol? Voici des exemples. À la Melach, le sel. À la Zamit, c'est la saumure. Valkmin ou Pitriot. Omer She'akol Niya Bidvaru. Ça veut dire que les Kmin ou Pitriot, ces champignons, ne sont pas Gidulé Karka. Et donc, pourquoi tu as dit que si quelqu'un il a fait un éder de Gidulé Karka, ça comprend les Kmin ou Pitriot? Amarabaye Mirvar Avu Mehara. Ça se développe à partir de la terre. C'est ses nutriments, on va dire, ses éléments de constitution lui viennent du sol, comme tout végétal. Minak Meavira Yanke. Mais c'est Yonek, l'humidité qu'il a besoin, son apport d'humidité lui vient du Avir, de l'air. Non pas du sol. Il puise pas dans le sol. Peut-être que ce qui nous fait voir ça, c'est qu'il a aucune racine. Je connais pas de champignons avec des racines. Et donc, il ne puise pas dans le sol l'humidité dont il a besoin. Et donc, en Yonek, je crois que c'est l'humidité, ça lui provient de l'air. Comment de l'air? Je ne sais pas si ça veut dire de l'air mamache ou de la surface de la terre. Parce que les champignons apparaissent, nous dit Rachid, quand il pleut, les champignons sortent. Maintenant, des fois, on n'a rien fait. On les voit, ça sort tout seul. Et donc, la yenika, qui veut dire l'humidité qu'il doit besoin pour se constituer, ça lui vient du avir, peut-être ça veut dire de la surface, de l'eau qui est en surface. Il n'a pas moyen de puiser en profondeur du liquide, ça non. Donc c'est l'eau qui est en surface qui a l'air libre, ou c'est carrément de l'air, je ne sais pas. Par l'humidité de l'air, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a une manière particulière de pousser qu'il n'est pas à même de puiser dans le sol l'humidité. Et c'est pourquoi on ne l'a pas appelé couramment Perota Aretz. Mais oui, il s'appelle quand même Gidulé Karka, parce que s'il n'y avait pas le sol, il ne pouvait pas se développer. Ça s'appelle un produit de la terre. Un Gidulé, quelque chose qui se développe avec la terre, ça c'est sûr. C'est pourquoi c'est inclus dans le Neder de Gidulé Karka. Si la Gemara, c'est très joli ton explication, mais comment ça correspond avec la Braïta? Pourtant, la Braïta, elle a dit que ce n'est pas Gidulé Karka. C'est pas uniquement, c'est pas Perot Aretz, c'est pas Gidulé Aretz. Vea Katani Aldavar Shen Gidulo Mina Aretz, et dont les champignons ont fait chez Akol. Toi, tu me dis si c'est Gadel Mina Aretz. Ça se développe à partir de ressources de la terre. Ça, tu reconnais. Alors, pourquoi ça s'appelle Davar Shen Gidulo Mina Aretz dans la Braïta de Brachot? Tane Aldavar Shen Yonek Mina Aretz. Comprends. Quelque chose qui n'est pas yonek, minaret. C'était ça le sujet là-bas. Donc les champignons en tant que no yonek. Mais gadel, minaret, c'est oui le cas. Et donc, c'est pourquoi, hein, quand tu dis je fais un vœu de ce qui est gadel, minaret, ça comprend aussi le champignon. Gemara, pardon, Mishnah. Anoder mina ksout, moutar, besak, kubiria ou bechamila. Ksout, c'est un habit, en bonne et due forme. Sak, c'est une sorte de toile en poil de chèvre. Yeria, c'est une toile épaisse, mais qui est comme une bâche. C'est pas un habit taillé. Et chamila aussi, c'est une sorte de tissu très rugueux et épais. Les gens mettaient ça pour se couvrir et se protéger de la pluie. Mais c'était pas un habit qu'on mettait comme un habit. Il y avait même pas la coupe d'un habit. C'est peut-être comme une étoffe qu'on mettait sur soi pour se protéger. Alors, celui qui a dit ksout, ben ça comprend pas ces choses-là, elles sont pas ksout. Ksout, c'est habit qu'on porte. Et là, c'est pas le cas, même si ça se met accessoirement pour se protéger. Mais ce n'est pas porté comme un habit qu'on enfile. Et donc, c'est pas inclus dans ksout. Par contre, il a dit konam tsemer ole alai. Bon, ça, c'est autre chose maintenant. Je fais un éder que la laine ne monte pas sur moi. Moutar lit kasot begizet semer. il aura le droit de se couvrir avec des touffes de laine. Ah, la laine, elle monte sur lui. Mais oui, quand quelqu'un dit « Tsemer ole alai », ça veut dire « Je m'interdis de ne pas porter des habits de laine ». C'est ça qu'il faut entendre. Alors, il ne mettra pas des habits de laine, mais s'il est, par exemple, allongé, il se couvre avec la touffe de laine, des toisons de laine, il n'y aura pas de problème. La même chose pour le lin. S'il a dit « Apishtan ole alai », « Konam que le pishtan ne monte pas sur moi ». Moutar les tkassot banitse pishtan. Il aura le droit de se couvrir avec des touffes, des touffes de lin. Parce que le neder, a priori, ça signifiait je ne vais pas me vêtir avec du lin. Rabbi Omer, hakol efi anoder. Tout dépend du contexte du neder. Dans quelle situation il était. Par exemple, Ta'an Vezia, il a chargé une charge de lin et il en a transpiré. Vayarecho caché, et il transpirait au point qu'il sentait pas bon, etc. Il en souffrait, c'est ça que ça veut dire. Et dans ce contexte, tellement énervé, Amar, il a dit, Konam tsemer upishti mola alai, je fais un éder que la laine, le lin ne montera plus sur moi. Comment tu dois entendre ce vœu? Quoi, ne pas m'habiller? Non, mutar leit kasot, il peut s'habiller avec du lin ou de la laine. C'était pas ce qu'il fallait entendre. C'est asur l'afshil la choram, chargé derrière son dos. Une charge de lin ou de laine, c'est ça qu'il a voulu bannir dans cette situation-là. On a bien compris que c'est ça qu'il voulait exprimer. Et donc, c'est ça qui est inclus dans le vœu et non pas s'habiller. Donc, Rabbi Yehuda nous dit, même ce que toi, tu dis que la laine ne monte pas sur moi, ça veut dire ne pas s'habiller, se vêtir de laine. Mais que je mets des toisons de laine sur moi, ce n'est pas un problème. Mais pas toujours. La laine qui monte sur moi veut dire s'habiller avec la laine. Il y aura des situations où on aura bien compris que son intention, c'était autre. C'était ne pas porter une charge de laine, comme dans cette situation que Rabuda nous décrit. Ensuite, « Tania dans une braïta noder minaksut mutar besak ubiria ubechamila veasur » Donc ça, on l'a dit déjà dans la Mishnah, c'est redit dans la braïta. Par contre, la braïta poursuit sa sour avec toutes sortes d'accessoires. « Punda », c'est une sorte de ceinture creuse. C'est comme une ceinture en textile, mais qui est creuse, on peut rentrer dedans des choses. Puis ce qu'il y a, c'est comme un ruban qu'on met à la taille. Sa courtia, on verra après. Katavlia, c'est quelque chose qui nous couvre, mais c'est en cuir rigide. Ampilia, c'est comme des bottes ou chaussons, certainement en cuir, mais en tout cas plutôt des bottes. Plinia, c'est comme une sorte de tablier. Mirnesaim, c'est comme une sorte de short, disons. Kova, un chapeau. Voilà, toutes ces choses-là, ça rentre dans Ksout. Quel est le chidouche? Je ne suis pas sûr, mais peut-être que tous ces éléments, si tu vas chercher dans un magasin, tu ne les trouves pas en rayon habillement, tu les trouves en rayon accessoire. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une tenue, c'est pas vraiment... C'est vrai, ça fait partie de la tenue d'un homme d'avoir tous ces accessoires-là. Alors, ce n'était pas évident que ça rentre dans le générique de Ksout, Kamash Malan que si. Maintenant, Maïs Kurti, Amaraba Barbachana Kituna Detzala. C'est une tunique en peau que le tanneur avait l'habitude de porter. Donc voilà, toutes ces choses-là s'appellent aussi des habits, et donc il ne peut pas les porter. Tanya, Yotzin Besak Ava, et là on est dans un autre registre, dans le sujet de Shabbat. On peut sortir Shabbat avec un sac qui est avé. C'est une toile en poil de chèvre qui est épaisse. Sagos avé, c'est aussi un truc du même genre, je ne connais pas exactement, mais pas en poil de chèvre. Une toile épaisse. Yeria, Chamila, c'est ce qu'on a mentionné, c'est-à-dire aussi une sorte de bâche, mais en toile épaisse. Chamila aussi, à peu près la même chose. Mipnei Akshamim, tout ça on peut les porter Shabbat pour se protéger de la pluie, mais lav davka pour se protéger de la pluie, si je peux les mettre, et ça s'appelle pas otsa, c'est ça le chidouche, ça s'appelle pas une charge, bien que ce n'est pas un habit avec des manches et une coupe, et tu enfiles l'habit, c'est pas un malbouche au sens littéral, ça se porte néanmoins derrière malbouche. Tu le portes, non pas comme une charge, tu le portes pour te protéger en dessous, et ça s'appelle derrière malbouche, alors c'est pas otsa et c'est moutard. Avalobe teva velobe kupa velobe marcelet, l'ipnak shamim. Mais si tu veux te protéger de la pluie, tu veux sortir avec une boîte, tu retournes une boîte sur la tête. Non, C'est pas derech malbouche. C'est ni malbouche, ni derech malbouche. Ni koupa. Koupa, c'est ouais, la même chose. Une corbeille ou quelque chose comme marcellette, c'est une natte sur laquelle on s'assoit d'habitude. Tout ça, si tu mets sur toi, ça s'appelle une charge. Point. Haroim yotzim besakim velo roim. Voilà, les roim sortent Shabbat avec sakim. C'est ce qu'on a décrit avant, sak. Mais pas que les roim. Lo roim bilvad amru et la kol adam et la shelibru hachamim bahuvé. Les hachamim ont l'habitude de parler de ce qui est courant. Alors l'exemple d'un homme qui porte un sac, c'est surtout les bergers. Mais c'est lav davka, c'est n'importe qui pourrait. Le berger, si j'ai bien compris, il a besoin, des fois, il est en pleine nature, il a besoin de se protéger de la pluie. Il a avec lui un sac, il le déploie sur lui. D'accord ? Alors lui, pour lui, on conçoit que c'est comme un ami, d'accord ? Mais pas que pour lui. Lui, c'est une référence pour tout le monde. Parce que si pour lui, c'est une habitude et c'est une manière, c'est aussi une manière pour tout le monde. Ça s'appelle un derech malbouche pour tout le monde. Et c'est donc pas otsa. Point. Rabbi Yehuda Omer Hakol Lefiano Derevechu Le'etanya. Dans une braïta, Rabbi Yehuda revient sur ce sujet. Ketzad. Ketzad Amar Rabbi Yehuda Hakol Lefiano Der. Comment c'est le commentaire de ce qu'a dit Rabbi Yehuda ? Tout dépend du contexte dans lequel on a émis le vœu. Haya Lavush Tsemer. Ve'etzar, il était habillé avec un habit de laine, ou bien qui était tsar d'après certains étroits, et donc un habit en laine qui est ajusté, eh bien, ça fait souffrir, ça fait tellement il avait chaud. Il a dit Konam tsemer ola alai, je fais un éder que je porte plus de laine. Asur l'ilbosh, ou mutar l'iton. Dans ce contexte, on a bien compris qu'il voulait mettre un trait sur quoi ? Sur le fait de porter des habits de laine. Mais pas de charger une charge de laine derrière son dos. Mais le contraire, Ayataoun Pishtan Vezia, s'il était dans un contexte où voilà, ce qui a l'air de le faire souffrir, c'est de supporter le fardeau, c'était du lin ou de la laine. Et il en a transpiré. Ve'amar Konam, il a dit, puis Konam Pishtan Ole Alai, Mutar Lilbosh, Ve'asur Liton. Là, le fait de s'habiller, c'est Mutar, et le fait d'être Tohen, c'est Asur. Tohen, ça veut dire charger. Parce que c'est ça qui est de quoi il était énervé là, ce jour-là. Et donc c'est sur ça que se rapporte le vœu. Donc dans la Braïta ici, on voit que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a rien qui est admis d'avance, d'accord ? Même pas pour les Vichas, on ne dit pas que c'est implicitement et logiquement que la laine monte sur moi, ça veut dire les Vichas. Non, ça dépend. Hein. Dans tous les cas, il faut voir le contexte dans lequel on a fait le vœu. Et alors que dans la Mishnah, c'est Mashma que Minastam, c'est Levisha, sauf si le contexte révèle le contraire, comme le cas où il était chargé. D'accord ? Ok, ça c'est une subtilité que le Ran relève. Voilà pour aujourd'hui. Et très bonne journée. Chanukah Sameach.